VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Conflit en Libye, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a ouvert ce jeudi la voie à une intervention militaire turque directe dans le conflit libyen, en annonçant le prochain vote au Parlement turc sur l'envoi de troupes pour soutenir le GNA, le gouvernement d'union nationale qui siège à Tripoli, face à l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar. La guerre civile en Libye a été au centre de la visite surprise du leader turc mercredi à Tunis, capitale de la Tunisie. Les détails avec Abdourahman Dia.
La patrouille militaire est tombée dans une embuscade dans le village de Al-Aleh, dans le nord du pays. Sept militaires ont perdu la vie sur le champ, selon des sources sécuritaires. Les premières informations ont fait état de 11 morts. 5 autres militaires ont été blessés. Certains sont portés disparus, selon les mêmes sources qui précisent que l'armée a abattu 5 assaillants.
Il s'agissait des problèmes au Burkina Faso et de la lutte contre les djihadistes. Nous revenons maintenant au conflit en Libye, où le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a ouvert ce jeudi la voie à une intervention militaire turque directe dans le conflit libyen, en annonçant le prochain vote au Parlement turc sur l'envoi de troupes pour soutenir le GNA, le gouvernement d'union nationale qui siège à Tripoli, face à l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar. La guerre civile en Libye a été au centre de la visite surprise du leader turc mercredi à Tunis, la capitale de la Tunisie. Les détails avec Abdourahman Dia.
Recep Tayyip Erdogan a rencontré pour la première fois le président tunisien Kais Saied, entré en fonction le 23 octobre. Le chef de l'État turc a déclaré avoir évoqué la coopération avec la Tunisie pour aider à un règlement du conflit libyen. Nous avons discuté des moyens de coopérer pour parvenir à un cessez-le-feu en Libye dans le cadre de la relance du processus politique, a dit le président turc, dont le pays appuie militairement le gouvernement d'union reconnu par l'ONU. L'impact des développements négatifs en Libye ne se limite pas à ce pays, mais touche aussi les pays voisins, en tête desquels la Tunisie, a ajouté Erdogan. La Tunisie partage une longue frontière avec ce pays plongé dans le chaos et accueille des milliers de Libyens depuis la révolte ayant conduit à la chute de Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est déchirée entre deux pouvoirs rivaux, le gouvernement d'union basé à Tripoli et dans l'Est un pouvoir incarné par le général Khalifa Haftar qui a lancé en début avril une offensive pour conquérir la capitale. Celui-ci est soutenu par l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, des pays avec lesquels la Turquie entretient des relations parfois tendues.
Nous revenons maintenant au Burkina Faso. Concernant l'attaque dans le pays à Arbinda, nous retrouvons Bagassi Koura.
Nous sommes vraiment fiers d'avoir contribué à la stabilité du pays à travers l'installation des institutions, mais en même temps, nous nous sommes bien regardés dans le miroir et compris que nous avons trébuché. Il y avait une responsabilité partagée.
Et justement, d'après vous-même, quelle a été la raison de l'échec de votre candidat à la présidentielle?
Il y avait une conjugaison de facteurs. Il y en a qui avaient pensé que l'annonce tardive de la candidature était pour beaucoup. D'autres ont pensé que les doutes qui avaient plané pendant longtemps sur l'organisation des élections, alors qu'il n'y avait pas de mystère, parce que le président Kabila avait dit clairement que les élections allaient être organisées. Et d'autres encore ont pensé que la campagne de diabolisation qui avait été menée systématiquement de l'extérieur contre le président Kabila et ses proches avait contribué justement à la désinformation. Et ce qui fait que le bilan du président Kabila et de son équipe n'avait pas une visibilité. Donc, bref, il y avait beaucoup de facteurs, mais le plus important, c'est de réaliser après le recul ce qui était objectif, de le corriger, et tout ce qui était subjectif tombe de soi-même.
Ça fait presque un an que vous êtes en coalition pour diriger le pays avec les caches du président Félix Tshisekedi. Quelle lecture faites-vous vous-même de cette coalition, parce que l'on constate des frictions, des altercations presque chaque deux semaines entre vous?
Pour nous, nous voyons le phénomène, nous ne voyons pas les épiphénomènes qui du reste sont tant pour les uns dû au tempérament de certains acteurs et qui, de nature, sont agitateurs, et pour les autres, au fait que c'est une première expérience qui n'a jamais été connue, et donc il y a matière à apprentissage.
Qu'en est-il alors du retour politique de l'ancien président Joseph Kabila? Parce qu'à un moment, ça avait été annoncé par l'FCC et on avait même vu des affiches annonçant un grand meeting pour le 24 décembre.
Le président Joseph Kabila a resté un acteur majeur de la scène politique congolaise. Non seulement il a réunifié ce pays, il a rebâti l'État qui n'existait plus, mais également il a avancé le processus de reconstruction de modernisation de ce pays. De ce point de vue, au-delà de sa propre volonté, à travers tous les pays, au-delà d'ailleurs, il a des sympathisants, il a de ses fans, il a des militants qui le soutiennent de partout et qui peuvent prendre des initiatives de toutes sortes pour montrer qu'ils tiennent à son leadership.
Par les échéances à venir, peut-on s'attendre à ce qu'il brigue dans l'avenir un autre mandat?
La question est trop prématurée. Ce qui est essentiel, c'est le rôle qu'il joue déjà aujourd'hui.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans son message de Noël hier à la Cité du Vatican, le pape François a appelé à la paix et la réconciliation dans le monde. Le souverain pontife a aussi dénoncé les agissements des groupes extrémistes sur le continent africain. Jacques Aristide résume ce discours, Urbi et Orbi.
C'est un pape souriant qui est apparu sur le balcon du palais pontifical pour prononcer son 7e discours du 25 décembre devant quelques 55 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre de Rome. Un message de Noël en forme de tour d'horizon d'une humanité blessée, dit-il, sur tous les continents, dont l'Afrique.
Si a pace per la popolazione.
Que le Seigneur apporte la paix à ceux qui vivent dans l'est de la République démocratique du Congo, déchirés par des conflits incessants.
Da persistenti conflitti, sia conforto.
Qu'il apporte consolation à ceux qui souffrent de la violence, des catastrophes naturelles ou des maladies.
O delle emergenze sanitarie.
Et qu'il apporte du réconfort à ceux qui sont persécutés pour leur foi religieuse, spécialement les missionnaires et les fidèles qui ont été enlevés et aux victimes d'attaques de groupes extrémistes, particulièrement au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria.
Le pape argentin, qui vient de fêter ses 83 ans et qui a fait du soutien des migrants l'une des priorités de son pontificat, n'a pas manqué de critiquer les murs d'indifférence qui se dressent sur leur chemin. Dans l'espérance d'une vie sûre, ils finissent par subir des abus innommables, l'esclavage de toutes sortes et des tortures dans des camps de détention inhumains, dit-il. Et dans un message de Noël commun diffusé par le Vatican, le pape François et l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, ont en outre encouragé la reprise des difficiles pourparlers de paix sud-soudanais au lendemain de l'annonce de leur ajournement à début janvier.
En France, le gouvernement a fixé au 7 janvier la reprise des négociations avec les syndicats sur son projet de réforme des retraites contre lequel la contestation se poursuit. Dans le collimateur des manifestants et des grévistes, la réforme du système des retraites voulue par Emmanuel Macron, le président français, prévoit le remplacement des 42 régimes existants par un système universel par points. Un changement perçu par ses détracteurs comme la porte ouverte à une précarisation des retraités. Et pour terminer, en Russie, le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a été arrêté jeudi après de nouvelles perquisitions menées dans les locaux de son organisation anticorruption. Alexei a été interpellé par la force et amené, il n'a pas résisté, a indiqué sur Twitter sa porte-parole Kira Yarmich. Peu avant, l'opposant avait diffusé une vidéo montrant la porte de son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, et être forcé à la perceuse et à la scie électrique. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.